Seigneur, merci pour encore cette journée. Et nous te prions maintenant dans le temps que nous avons, avant le repas, de pouvoir nous concentrer sur la parole, Seigneur, et sur ce qu'elle nous a à dire. Et Seigneur, encore nous te remercions pour tes bienfaits pour cette Église. Et Seigneur, aide-nous à être une Église qui a un impact sur le monde autour de nous à cause de notre amour. Et Seigneur, je te remercie maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Écoutez, j'ai intitulé le message de ce matin « L'amour qui secoue le monde ». L'amour qui secoue le monde. Et peut-être, vous me connaissez, vous savez qu'une de mes plus grandes joies dans la vie, c'est de voir quelqu'un confier sa vie à Jésus-Christ et de voir la transformation qui se fait depuis l'intérieur et de se voir cette vie se conformer spontanément de plus en plus à Jésus-Christ. Et bien sûr, ça c'est une de mes passions et donc j'aime beaucoup l'évangélisation, comme vous le savez. Et récemment, j'étais dans Jean 13, donc on va y aller, on va passer notre temps ce matin pour la plupart dans Jean 13. Mais j'ai atterri sur ces deux versets qui m'ont vraiment interpellé. D'accord ? Deux versets vraiment intéressants, Jean 13, 34 et 35. Et voici ce qu'ils disent. Jésus parle à ses disciples et il dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Et ensuite, le verset 35, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et je me suis dit, mais c'est quand même incroyable ce qu'il dit, « Tous sauront, connaîtront que vous êtes des disciples, comment ? Par l'amour que nous avons les uns pour les autres. » Donc, bien sûr, l'évangile est propagé par l'articulation de notre foi, pour pouvoir expliquer ce que nous croyons, mais les gens veulent voir dans notre vie le message que nous prêchons. Ils veulent voir chez nous quelque chose de radical, quelque chose de draconien, quelque chose de autre que ce que le monde connaît. Et, dans ces versets, Jésus nous dit que la clé de l'évangélisation, de l'articulation de notre foi, c'est notre vie. Et surtout, comment on s'aime les uns les autres. Alors, je pense que pour notre Église en particulier, ça c'est un immense défi, et peut-être un de nos plus grands défis. Pas parce qu'on le fait mal. Moi, je pense qu'on. Moi, je suis vraiment encouragé par l'amour qu'on ressent et qu'on manifeste l'un envers l'autre. Mais je pense que nous, peut-être plus que beaucoup d'autres églises, c'est un grand défi. Pourquoi est-ce que c'est un défi ? Premièrement, ça fait 2 ans et demi qu'on existe. On a grandi passablement. C'est-à-dire, moi, ça m'a vraiment surpris de voir le monde de personnes aujourd'hui, même aujourd'hui. Moi, je suis étonné de toutes les personnes qui fréquentent notre église semaine après semaine. Moi, je suis le premier à être étonné par rapport à cela. Aujourd'hui, nous représentons, alors je ne sais pas s'il y a 20, 30, 40 nationalités, on le verra, d'accord ? Donc j'espère que vous allez encore mettre votre nom, d'accord ? Mais c'est vrai que nous avons beaucoup de nationalités représentées ici. Nous venons beaucoup d'horizons très différents. Nous venons de pays différents, bien que nous nous trouvons pour l'instant à Genève ou en Suisse ou en France voisine. Nous venons de cultures différentes, nous avons des professions différentes, nous avons des langues différentes. Alors voilà le truc que j'aime avec notre église, c'est qu'on peut tous massacrer la langue française et tout le monde est content, d'accord ? Parce qu'il y a très peu, il y en a quand même quelques-uns qui parlent hyper bien le français, mais la plupart de nous, vous êtes comme moi, ou bien vous avez un accent, et puis ben voilà, quoi, on s'entend bien les uns et les autres. Et la langue n'est plus une barrière. Nous avons non seulement des langues différentes, nous avons des niveaux de vie différents. Nous vivons dans des endroits différents. Écoutez, nous sommes une des rares églises, je pense, au monde, où nous représentons 2 pays. Il y a des gens qui vivent en Suisse, et il y a des gens qui vivent en France. C'est quand même marrant, je trouve. Et nous n'avons même pas un local permanent. Nous sommes encore en train de louer un hôtel, et à moins que Dieu nous donne vraiment un don du ciel, beaucoup d'argent, parce que pour acheter à Genève, vous connaissez les prix aussi bien que moi. Je ne sais pas trop comment on va faire, mais pour l'instant, on est super bien loti, mais on est quand même dans un hôtel. Et donc, c'est pas vraiment... J'aimerais bien que ce soit l'église évangélique Ramada, mais c'est pas ça, d'accord ? C'est un hôtel Ramada aujourd'hui. Et quelque part, Notre Église, elle est imbibée de difficultés naturelles. Ce qui nous réunit, c'est Jésus-Christ. C'est l'amour de Jésus-Christ, mais nous sommes unis. Nous sommes chrétiens, nous sommes dans cette Église, Dieu nous a placés dans cette Église, nous vivons un miracle, nous l'avons appelée l'Église internationale, mais je pense que le point fort de notre Église peut devenir le point faible de notre Église. On est tellement différents que ça pourrait nous pousser loin les uns des autres. On pourrait vivre dans notre petit ghetto et pas vraiment appliquer ce que le Seigneur nous demande d'appliquer. Et alors, ma question que je pose ce matin, c'est, avec toute cette diversité qui est notre point fort, comment faire pour ne pas simplement être une église spectacle, où on vient, on part, on vient, on part, mais une église relationnelle, une église où nous avons les rapports les uns avec les autres, où ces rapports sont réels, authentiques, remplis de sens, où nos relations les uns avec les autres reflètent vraiment Jean 13, 35. Où les gens regardent notre amour, et c'est là où je pense qu'on a un avantage. Si cet amour, on peut le manifester avec nos différences culturelles et autres, ben ce sera d'autant plus radical comme message. Mais je pense que cela va demander un effort assidu, un effort important, un effort délibéré à cause de notre diversité. Et si le Seigneur nous donne encore croissance, ça on ne sait pas, ça c'est dans ses plans, eh bien ça va être de plus en plus dur, de plus en plus difficile. Parce que plus on est grand, ben plus les gens pourraient s'éloigner dans leur petit monde à eux. Alors, comment faire ? Ça, c'est le défi. D'accord ? Comment faire ? J'ai quelques minutes pour nous expliquer, j'espère, enfin, écouter ce que Jésus a à dire sur comment faire. Comment assurer cette colle ? Comment faire que notre amour soit vraiment un amour radical visible au monde ? Eh bien, la réponse, devinez où elle est, dans Jean chapitre 13. Parce que je vous ai donné, en fait, la fin de l'histoire. On a commencé avec la fin aujourd'hui, c'est marrant, non ? Mais là, maintenant, on va recommencer au début et comprendre très brièvement. Alors, bien sûr, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail. Alors, comment faire ? Et je pense que dans Jean 13, Jean, qui écrit cet événement de la vie de Jésus, décrit un des événements peut-être les plus connus de sa vie, je suppose. Une des raisons, c'est parce que cet événement bouleverse les normes culturelles et pose de manière claire la clé de nos relations chrétiennes, mais des relations pas simplement salut, mais des relations qui vont vraiment être visibles au monde autour de nous et vouloir que les gens viennent et connaissent le Seigneur. Alors, le contexte de ce récit, 3 années de ministère de Jésus arrivent à sa fin. Les disciples savent, et ils savent que très tôt, peut-être qu'ils ne savaient pas que ça allait être le lendemain, mais qu'ils allaient perdre leur sauveur. Jésus allait mourir. Et ils ressentent une peur, une solitude. Alors ils sont maintenant dans la chambre haute, Jérusalem. Ils vont manger ensemble pour la dernière fois. C'est quelques heures seulement avant l'arrestation de Jésus. C'est juste un jour avant sa crucifixion. Jésus sait tout. Lui sait exactement où il va. Il a choisi le jour même de sa crucifixion. On verra dans quelques minutes. C'est jeudi soir. La tension dans cette chambre haute est palpable. La peur est générale. Et là, Jésus donne son dernier discours avant de mourir, son dernier grand discours. Et ils vont manger un repas. Et ce repas va être doté d'un événement aussi stupéfiant qu'humiliant, un événement qui va mettre tout le monde hyper mal à l'aise. Mais cet événement inoubliable pour les disciples va être inoubliable non seulement pour eux, mais pour toutes les générations à suivre, dont notre génération. Jésus va démontrer de manière inoubliable comment nous, les chrétiens, nous devrions nous aimer les uns les autres. D'accord ? Donc c'est la clé. Ta-da ! C'est la clé. Alors voyons comment il le fait. Je vais lire les versets, ensuite je les commente rapidement. D'accord ? On va lire les versets à partir du verset 1 et jusqu'au verset 16. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer dans ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait de Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec un linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Et Jésus lui dit, « Celui qui est baigné n'a besoin de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il leur prit ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres, aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. » Verset 34. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Je pourrais presque m'arrêter là. Tellement c'est clair. Mais bon, il faut quand même que je prêche. Donc je continue, d'accord? Mais c'est vrai que c'est clair, non? C'est ça que j'aime avec la Bible. C'est hyper clair. C'est hyper clair, quoi. Regardez. Allez, on parcourt rapidement, d'accord? Verset 1. On apprend que c'est avant la fête de la Pâque. La Pâque juive était la fête où les pèlerins venaient du monde entier pour commémorer l'Exode. Vous vous rappelez, où l'agneau a été sacrifié, le sang a été mis sur les lintos des portes et l'ange de la mort a passé par-dessus. Jésus a choisi ce même jour pour mourir parce que lui était l'agneau parfait de Dieu. Son sang allait couler et son sang mis sur le linteau de nos cœurs évite que l'ange de la mort vienne et nous tue éternellement. Et il dit, sachant que son heure était venue de quitter le monde et aller au Père. Et ça, c'est vraiment intéressant. Tout était planifié jusqu'à la dernière minute pour Jésus. Il savait très bien, lorsqu'il est venu, ce qu'il était venu de faire. Il était venu mourir pour nous. C'était son objectif. Il savait le jour. Et c'est intéressant, car dans Jean 17 et le verset 5, nous apprenons ceci. Jésus dit, « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Jésus sait très bien. Il était avec le Père. Il est descendu pour son œuvre. Il va mourir, ressusciter, remonter vers le Père. Donc il savait que c'était simplement une œuvre de venir mourir pour nous. Et là, ayant aimé agapé le monde, les siens qui étaient dans le monde, il mit le comble de son amour. Ça veut simplement dire, je vais vous montrer maintenant le top du top de l'amour. Je vais vous montrer le maximum. Comment aimer quelqu'un au maximum. Alors bien sûr, vous direz, oui, mais John, Jean 15, 13 dit que l'ultime acte d'amour, c'est de se sacrifier ou donner sa vie pour quelqu'un. Ça, c'est vrai. Ça, c'est l'acte ultime. Tu meurs à la place de quelqu'un, là, c'est l'acte ultime d'amour. Mais entre-temps, on n'est pas tous appelés à mourir pour quelqu'un. Alors comment est-ce qu'on manifeste l'amour top du top avant de mourir quelqu'un? Eh bien, c'est exactement ce qu'il va nous montrer ici. Ça, c'est le comble de son amour jusqu'à qu'il meure pour quelqu'un. Donc, si vous voulez comprendre l'amour, On y est. Alors c'est vraiment intéressant. Parce qu'avant de nous donner cet exemple merveilleux de l'amour, il y a le verset 2 qui arrive comme une bombe. Ce verset 2 fait tâche. Mais regardez ce qu'il dit. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, le dessein de le livrer. Vous allez voir, Jésus va maintenant démontrer le plus grand acte d'amour possible sur terre. Disons, cet exemple, par exemple, qu'il va donner, Et on nous rappelle que quoi ? Que même dans le cercle le plus proche de Jésus, il y avait un traître, il y avait un faux, il y avait un ennemi, et il s'appelait Judas. Et l'Église n'est pas à l'abri, malheureusement, de gens qui infiltreront l'Église, pas pour semer l'amour, mais pour semer la haine. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Donc, nous devons être vigilants. Hyper, hyper vigilants. Et c'est dans le contexte de ces tensions-là, de ces tensions incroyables, que Jésus fait l'impensable. Incroyable. Verset 3. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Voyez-vous, Jésus n'est pas une victime innocente de la crucifixion qu'il allait subir le lendemain. Tout était prévu d'avance, tout était clair, tout était net. Il venait du Père, il repartait vers le Père. Et ce qui est intéressant, c'est que ce verset-là, 3 nous montre, mais allez voir, nous sommes là face au Fils de Dieu. Notre Seigneur et notre Maître, celui qui vient s'offrir comme l'agneau parfait de Dieu, et c'est lui, mes amis, notre Seigneur, celui que nous avons adoré ce matin, c'est lui qui va faire maintenant ce geste incroyable. Verset 3. Lui, celui qui était venu du Père et qui retournait au Père, le Fils de Dieu, verset 3, se leva de table. Il ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec un linge dont il était saint. Alors c'était la coutume à l'époque. Les gens portaient des sandales, il y avait de la poussière, des fois de la boue, quand il pleuvait c'était une boue, c'était beaucoup d'eau là-bas parce que ça n'absorbe pas. Et donc c'était la coutume de s'essuyer, de se laver les pieds. Moi, j'étais en Albanie il y a quelques années en arrière. Là-bas, ce n'est pas les pieds parce qu'il fait froid, mais les chaussures, on lave toujours ses chaussures, on les enlève quand on arrive à l'intérieur pour ne pas amener la poussière à l'intérieur. Et ensuite, on les lave et les trucs, puis ensuite, on ressort dans la boue. C'est comme ça que ça se passait. Et surtout, alors, la coutume était que quand on avait un grand repas de fête comme celui-là, eh bien, on prenait déjà un bain chez soi. Et ensuite, on arrivait à la fête et il n'y avait pas besoin de reprendre un bain, mais juste de se laver les pieds avec la poussière qu'on avait déjà récoltée du voyage jusqu'à ce banquet. En plus, il faut pas oublier que les gens se couchaient, on n'était pas assis sur des chaises comme ça, mais les gens se couchaient et tu avais probablement les pieds de ton voisin assez proche de ton visage en train de manger. Donc, tu préfères peut-être avoir des pieds propres, d'accord ? Donc ça, c'est le côté hyper pratique du truc, d'accord ? Mais donc, on voit, quand on comprend le contexte, c'est comme ça que ça se passait. L'autre chose, c'est que la coutume, c'était que c'était un esclave. Un esclave devait d'habitude faire ce travail, et dans 1 Samuel 25-41, Abigail, eh bien, propose de prendre la place d'un esclave, la place d'un esclave pour laver les pieds des serviteurs de David. Donc elle dit, écoute, moi je suis d'accord de servir comme un esclave et laver les pieds. Tout ça pour montrer que c'était vraiment le job d'un esclave. Mais ce repas était un secret. Il était secret, donc il n'y avait pas d'esclave ce jour-là. Et bien sûr, aucun des disciples s'était porté volontaire pour laver les pieds des autres. Alors ça, c'est quand même intéressant. Vous dites, mais pourquoi John, 3 ans avec le Seigneur, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un qui serait, les gars, il n'y a pas d'esclave, est-ce qu'on n'aurait peut-être pas un de nous laver les pieds des autres? Pourquoi pas? Ah, alors là, j'ai trouvé une perle. Car dans Luc 22, on trouve, je pense, la réponse. Dans Luc 22, et le verset 14, c'est le passage parallèle, d'accord, donc raconté par Luc. Et dans le verset 14, on sait que l'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Donc c'est le même incident, le même moment. Ils sont à table. Verset 19, il commence la Sainte Cène, ensuite il prit du pain et après avoir rendu grâce, etc. Au verset 21, il dénonce Judas. Il dit, cependant, voici la main de celui qui se livre avec moi est à cette table. Maintenant, regardez le verset 24. C'est incroyable. Ils sont là, dans cette salle, en train de manger la Sainte Cène, et regardez le verset 24, il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Et une discussion autour du repas, là, et il commence à se dire, mais attends, on est 12, entre nous 12, franchement, qui est le plus grand? Quand on sera au ciel, qui aura la meilleure place? Ils ont commencé là, à ce repas-là, de se poser la question. Et Jésus répond. Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais c'est le plus grand parmi vous qui soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Alors écoutez, là, ils reçoivent une claque, les disciples. Pourquoi est-ce qu'aucun d'eux n'a porté volontaire de prendre un bassin d'eau et laver les pieds des autres? Parce qu'ils étaient en train de se discuter entre eux. Mais t'as voir, c'est peut-être moi le plus grand. C'est peut-être moi qui vais avoir le plus de couronne là-haut au ciel. Écoutez, on ne pourrait pas être au plus loin de la situation que l'était le Seigneur. Les plus petits se prenaient pour les plus grands, et le plus grand, Jésus-Christ, a servi comme le plus petit. Un renversement total du rôle. Et là, quand Jésus se lève et prend un bassin, et commence à verser de l'eau, et commence à laver les pieds des disciples, mes amis, c'était comme une bombe atomique. Je pense qu'il n'y avait pas un qui pouvait regarder Jésus droit dans les yeux. Alors bien sûr, chaque groupe de personnes a un porte-parole, dans ce cas c'était Pierre. Jésus arrive à Pierre, verset 6, et Pierre lui dit, « Toi Seigneur, tu me laves les pieds ?» Qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Ceci. Toi, Seigneur, tu me laves les pieds? Non, mais ça ne va pas. Comment est-ce que toi, mon Seigneur, tu peux te mettre au niveau de l'esclave et me laver les pieds? Impossible. Impossible. C'est pas possible. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Alors, vous savez qu'il y a des églises qui décident, ils pensent que cet acte de laver les pieds, c'est quelque chose qu'on devrait faire. Donc, vraiment, ils ont une cérémonie d'habitude pendant la Sainte Cène, et là, ils se lavent les pieds les uns les autres. Alors, il y a des églises qui le font, c'est pas normal, hein, c'est un choix. Nous, on pense pas que c'est nécessaire, que c'est une prescription, une ordonnance, comme la Sainte Cène ou le baptême. Une des raisons, c'est justement à cause du verset 7, il dit à Pierre, ce que je fais, tu ne comprends pas maintenant. Alors, est-ce que Pierre ne comprenait pas ce qu'il faisait? Bien sûr, il comprenait humainement, il comprenait qu'il était en train de laver les pieds et prendre la place de l'esclave. Mais Jésus, c'est comme s'il donne une leçon plus grande ici, ils vont venir, mais tu ne comprends pas le vrai sens de ce que je suis en train de donner ici. Hein? Ce que je fais, tu ne comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Il y aura une révélation plus tard et tu vas le comprendre. Alors, Pierre, il pense avoir compris, mais il n'a pas compris. Parce qu'au verset 8, il dit, « Ah, non, jamais tu me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Il lui dit, « Non, jamais tu pourras me laver les pieds. » Jésus lui dit, « Écoute, si je ne te lave pas les pieds maintenant, tu n'auras pas de part dans mon ministère, peut-être même encore éternel. » Ça, c'est vrai, il ne comprend plus rien. Sauf qu'il croit avoir compris au verset 9, Simon Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore mes mains et ma tête. » Écoute, alors là, je veux un bain, donne-moi un bain. Donne-moi un bain. Jésus dit, non, attends, Pierre, t'as rien compris. J'espère que t'as déjà pris la main chez toi, d'accord? Non, c'est intéressant. Il ne comprend tout simplement pas l'aspect spirituel de ce que Jésus est en train de dire ici. Et ce qu'il est en train de dire ici, c'est que la même manière que le lavement des pieds allait rendre Pierre acceptable socialement pour le repas, je pense que la leçon ici, c'est que le lavement moral d'une personne, donc le pardon de ses péchés par Christ, le rendra acceptable pour le royaume de Dieu. C'est ça le symbole ici. Le lavement des pieds avait but comme démontrer la nécessité d'un lavement de la personne du mal, le pardon de ses péchés. C'est une sorte de parabole ici. Et donc, verset 10, Jésus lui dit, celui qui a baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Alors ça, c'est vraiment intéressant aussi, tout est intéressant, mais il faut que j'évite. Écoute, si tu es lavé déjà, si tu as déjà pris un bain, si tu es déjà pardonné par Christ, bien, tu n'as pas besoin de revenir et être sauvé chaque fois, c'est ce qu'il est en train de dire là. Non, un chrétien bien sûr qui, comment dire, récolte la poussière du monde, ne doit qu'un petit lavement des pieds. C'est une confession régulière de ses péchés. Je pense que la clé pour comprendre tout ça, c'est le verset 11. Regardez ce qu'il dit. « Car il connaissait celui qui allait le livrer. » C'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Là, il y a vraiment la compréhension. Il est en train de maintenant faire un contraste entre les disciples et Judas. Il dit « Il y en a un parmi vous qui n'est pas pur. Il y en a un ici qui n'a pas pris de vrai bain. Il y en a un qui n'a jamais été pardonné par Jésus-Christ ici. C'est toi, Judas. » Il va le désigner dans quelques minutes. Mais les autres, oui. Et donc, je pense que la clé, c'est le verset 11. Et après qu'il leur ait lavé les pieds, et qu'il lui prit ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ?» Non, il veut qu'ils articulent ce qui s'est passé. C'est lui qui répond, « Vous m'appelez maître et seigneur, vous dites bien, car je le suis. » Il dit, « Écoutez, maintenant, je vais vous expliquer. Je suis votre maître, je suis votre seigneur. Vous m'appelez maître, vous m'appelez seigneur. » C'est juste. Jésus-Christ est le maître et le seigneur. « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Dis, ben, j'aimerais que vous fassiez comme moi. Voici l'exemple que je vous donne. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son seigneur, ni l'apôtre que celui qui l'a envoyé. Écoutez, mes amis, il y a un exemple ici que Jésus est en train de communiquer. Et regardez, la fin, c'est le verset 34 à 35. La leçon ultime, c'est quoi? Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. La leçon est une leçon d'humilité, de service, d'amour. C'est une leçon d'être d'accord, de s'abaisser, et s'il faut laver les pieds de quelqu'un. Et ça, mes amis, ça prend une sacrée humilité pour le faire. Regardez le petit verset 17. Tu sais, aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent la clé du bonheur. Ben, alors, aujourd'hui, on te dit, si tu veux la clé du bonheur, il faut piétiner les autres. C'est celui qui termine avec le plus qui gagne, mon ami. Le verset 17 de Jean 13, Jésus dit l'opposé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. C'est intéressant. Il dit, tu veux être heureux dans la vie? Fais-le. Le bonheur vient en servant les autres. Et ça, c'est complètement l'opposé de ce que le monde dit. Le bonheur, si vous voulez être heureux, sert quelqu'un. Tu dis, ouais, mais alors comment? Comment je fais pour servir quelqu'un? Est-ce que vous avez tous reçu la petite feuille avec les uns les autres? D'accord? Heureusement, je l'ai donné parce qu'on n'aura pas le temps de regarder tout ça, bien sûr. On peut juste regarder. Comment on fait? Très vite, très vite. Comment on fait pour nous aimer, pour nous servir les uns les autres? Alors, si vous prenez toutes les fois où dans la Bible, le terme les uns les autres apparaît, il y en a, je crois, 35 en tout, alors moi, j'essaie de les catégoriser en 6 grandes catégories, d'accord? Comment se servir les uns les autres? Eh bien, premièrement, nous devons nous appartenir. Et c'est intéressant que dans Romains 12, 5, il est dit « Soyez membres les uns des autres ». Et là, c'est le contexte du corps humain. C'est intéressant. Hier, j'ai eu un grain de poussière dans mon œil. Qui a déjà eu un grain de poussière dans son œil? C'est hyper irritant. Et je me rappelle, pendant peut-être 20 minutes, j'étais là, l'eau, bassin, je prenais ma paupière, je la mettais comme ça, puis l'autre comme ça, puis je remettais de l'eau, puis des gouttes, et puis rien à faire, quoi. Le truc, il ne voulait pas partir. Et j'ai pensé à mon corps à ce moment-là. Écoutez, c'est quand même incroyable. J'ai des paupières hein, qui poupillent, je ne sais pas si ça se dit, d'accord? Ensuite, j'ai des larmes, des larmes qui viennent automatiquement essayer de chasser le truc qui est dans l'œil. Ensuite, j'ai ma main. J'ai pas dû dire à ma main, « Main, va à ma paupière, essaye de sortir le truc dans l'œil. » Non, c'est venu tout seul. Mon corps est coordonné pour la plupart, et j'essaye, avec un corps coordonné, de sortir le petit grain dans mon œil. Et 2 heures plus tard, ça réussit. Mais le point est que c'est un corps, et le corps est coordonné. Et la Bible nous dit que nous sommes un corps, le corps de Christ. Mes amis, on est membres les uns des autres. Et chaque membre est important. Si tu es là, si tu es dans la famille de Christ et dans cette église, tu es important. Et Dieu t'a donné en plus des dons à servir dans cette église, à utiliser dans l'église. Et donc, si tu n'appartiens pas au corps de Christ, et si tu n'appartiens pas à une église dans le corps de Christ, ça va être très difficile de faire ce que Jésus préconise. Pourquoi? Vous allez voir au dernier point pourquoi. D'accord ? Deuxième point, nous devons nous chérir. Alors là, si vous prenez tous les prochains, soyez bons les uns envers les autres, soyez plein d'affection envers les uns les autres, accueillez-vous les uns les autres, soyez en paix les uns avec les autres. Ça, c'est simplement ceci. Soyons sympas les uns avec les autres. Soyons sympas. Moi, j'aime bien quand quelqu'un est gentil avec moi, pas vous ? Ben oui, soyons gentils, soyons bons, soyons pleins d'affection, accueillons-nous, ouais, je suis content de te voir, c'est super, aidons les gens qui sont dans l'église. Et là, il y a toute une série de les uns les autres négatifs. Hein. Donc, il prend négatif pour en fait parler du positif. Voilà ce qu'on ne devrait pas faire les uns avec les autres. Ne vous mentez pas les uns les autres, ne parlez point mal les uns des autres, ne vous détruisez pas les uns les autres, ne vous dévorez pas les uns les autres, ne vous enviez pas les uns les autres, ne vous jugez pas les uns les autres, ne vous mordez pas les uns les autres, ne vous plaignez pas les uns des autres et ne vous provoquez pas les uns les autres. Alors j'essaie de prendre l'opposé de tout ça, d'accord ? On devrait se dire la vérité, on devrait parler bien les uns les autres, on devrait se construire les uns les autres, on devrait s'encourager les uns les autres, on devrait se féliciter les uns les autres, on devrait se complimenter les uns les autres, on devrait s'embrasser les uns les autres. Et puis les deux derniers, je ne savais pas comment trouver l'opposé de plaigner et l'opposé de provoquer, je n'ai plus trouvé. Mais vous voyez ce qu'on devrait faire ? On devrait être sympas les uns avec les autres. Et les gens devraient se dire, mais pourquoi vous êtes tellement sympas les uns avec les autres ? Parce qu'on est frères et sœurs en Christ. Trois, nous devrions nous honorer. Nous devrions nous honorer. Ça, c'est l'attitude qu'on devrait avoir. Aimez-vous les uns les autres. Attendez-vous les uns les autres. Honorez-vous les uns les autres. Usez de prévenance ou estime les uns les autres. Ayez en vous des sentiments, les mêmes sentiments les uns les autres. Édifiez-vous les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Regardez les uns les autres comme étant au-dessus de vous. Et soumettez-vous les uns les autres. On devrait avoir cette attitude que Jésus a eue de se mettre en dessous des autres et de les élever. De dire, tu sais, frère, sœur, moi, je te considère plus important que moi. Je t'aime. Moi, je suis prêt à te servir et t'honorer ainsi. Ça, c'est révolutionnaire. Le monde, c'est l'opposé. Hein, toi, tac, je t'écrase pour grimper. Non, nous, c'est l'opposé. Nous, on s'écrase pour permettre aux autres de grimper. C'est radical. Quatre, nous devons servir. Lavez-vous les pieds les uns les autres. Ayez soin les uns les autres. Employez votre don spirituel les uns envers les autres. Exercez l'hospitalité envers les autres. Portez les fardeaux les uns les autres. Rendez-vous serviteurs les uns les autres. Là, c'est l'action. C'est bien d'avoir une bonne attitude vis-à-vis des autres. Maintenant, il faut servir. Il faut trouver un moyen d'utiliser nos dons et de faire quelque chose pour aider quelqu'un. Alors, bien sûr, ça, c'est facile. Écoutez, les anciens, il y a un problème dans l'église. Est-ce que vous pourriez résolutionner ces problèmes ? Bon, ça peut arriver. Mais peut-être que toi, tu as la solution pour aider quelqu'un. Bah, va l'aider. Va le servir. Exercer l'hospitalité. Vous dites, ouais, mais Dieu, moi j'ai un petit appartement. Puis quoi ? C'est super intime, un petit appartement. Vous invitez deux, trois personnes, un petit repas. On commence à connaître les gens. On commence à connaître les besoins. Ça nous aide à servir les gens. Il y a tellement de manières de faire. Ça, c'est l'action. Donc, on doit nous appartenir, chérir, honorer, servir. Nous devons, ou là, c'est plus dur, nous pardonner les uns les autres. Confessez vos péchés les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Supportez-vous. Il y a des gens, on pardonne, mais il faut quand même les supporter. Hein. Il y a des gens, c'est vrai, il faut dire, c'est pas toujours facile. Ben, on les supporte, on les aide. Rendez-vous serviteurs, pardonnez, soyez en paix les uns avec les autres. Mes amis, on devrait courir vers le pardon. On devrait facilement offrir le pardon et on devrait facilement pardonner les autres. Ça, c'est l'action. Et dernièrement, vous vous rappelez, je vous ai dit, si vous n'appartenez pas, le dernier point, il ne va pas marcher. Pourquoi ? Parce que le dernier point, c'est ça, nous devons nous exhorter les uns les autres. Ça veut dire quoi ? Ah ! Eh bien, premièrement, nous devons veiller les uns sur les autres. C'est-à-dire que moi, je dois regarder à ta vie pour voir si ça va, mais toi, tu dois regarder à ma vie. Et si tu vois un truc qui va bien, tu devrais m'encourager. Et moi, j'aurais t'encouragé. Et si tu vois un truc qui va mal, tu devrais me dire. Ah oui, mais c'est réciproque. Et si moi je vois un truc dans ta vie qui va mal, ben j'aurais te le dire. Pourquoi ? Pour progresser. Parce que le corps de Christ, si j'ai un truc dans l'œil que mon œil a mal, ben tout le corps se mobilise pour l'enlever. Pour que le corps soit sain. Ben écoutez, moi je dois t'aider à voir ce qui va mal et toi tu dois m'aider à voir ce qui va mal pour qu'on se corrige et pour que le corps aille mieux. Et nous devons nous exhorter les uns les autres et veiller les uns les autres. Et donc si tu n'appartiens pas, quand quelqu'un vient te voir pour te dire « Frère, sœur, est-ce qu'il y a un problème ?»« Au revoir, je vais voir une autre église. » Ben ouais, c'est souvent comme ça. La meilleure chose à faire, c'est de rester et de dire, ah ouais, bah, moi je veux grandir. Donc je t'invite, viens me voir. Et moi je m'invite, je viens me voir. Là, on était très vite, d'accord? Est-ce que vous comprenez? Je pense que si on fait ça, si on s'appartient, si on se chérit, si on s'honore, si on se sert, si on pardonne, si on s'exhorte ainsi, moi je pense que Jean 13, 35 va s'appliquer. Les gens vont se dire, c'est révolutionnaire. L'Église internationale, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Les gens s'aiment sans les autres. Les gens se servent les uns les autres. Les gens se lavent les pieds les uns les autres. C'est là où je veux aller. C'est là où je veux aller. Ça, c'est ce que je prie pour vous. Vraiment. Que notre amour soit révolutionnaire. Mais ça, ça implique qu'on passe du temps ensemble. Eh bien, bienvenue, Gilles. On commence aujourd'hui. Amen. Ou bien on continue aujourd'hui, parce qu'on se connaît déjà bien. Et que le Seigneur utilise même ces moments d'étente, de repas, tout ce qu'il a prévu aujourd'hui, même le moment de partage, que ça soit tout dans le contexte de nous servir les uns les autres. Est-ce que je peux entendre un amen ?
Amen.